Bonjour, vous écoutez Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, on tourne autour du mot « rue ». C'est pas innocent du tout. Probablement que vous écoutez CIBL, vous êtes probablement du genre à être descendu dans la rue vous-même dans les dernières semaines pour le conflit étudiant, pour le plan Nord ou pour n'importe quoi. Donc, on commence dans la rue, on commence ici au Square Victoria, là où du 15 octobre au 25 novembre 2011, des gens ont fait, certains diront du camping, d'autres diraient beaucoup plus que ça. J'ai avec moi Luc Lefebvre, qui était à Occupa Montréal et qui était dans le comité média, c'est ça?
Oui, exactement, je suis en comité média.
Donc, t'es de ceux qui ont fait quoi, du camping?
Oui, en fait, oui, je suis de ceux qui ont fait du camping, mais aussi qui ont occupé, en fait, ce qu'on appelait la place du peuple, s'arranger pour que les gens viennent se mettre autour d'une idée qu'il y avait un problème au niveau de la répartition des richesses. L'idée qu'on est, c'est 1% contre 99%.
D'habitude, on prend la rue.
Ouais.
Et ce qui avait de spécial avec Occupons, le mouvement Occupy, c'est que vous preniez le trottoir.
On prenait les places publiques, en fait. L'objectif, c'était de se réapproprier l'espace public, surtout. Parfois, dans les manifestations, on ne va pas nécessairement dans les endroits où les gens qui prennent les décisions, où les gens qui travaillent vont plus voir la manifestation, être au courant de ce qui se passe dans le monde. Nous, on s'est dit, on va prendre un endroit qui est central au niveau économique à Montréal et on va se réapproprier l'espace public. Et donc, c'était l'objectif de rester là, d'occuper le territoire, puis de se faire voir, de faire comprendre les gens qui avaient un problème au niveau de la répartition des richesses. Puis je pense que ça l'a, surtout au Québec en fait, ça a eu un impact dans l'imaginaire collectif qui est les Québécois, on peut aussi s'activer, on peut aussi, on peut être écœuré, puis on peut redevenir des activistes, puis on a le droit d'être des citoyens. Je pense que le mot aussi, c'est de ramener le mot citoyen, parce que depuis longtemps, on avait oublié le mot citoyen, on était des consommateurs, on était des électeurs, mais on était rarement des citoyens qui pouvaient revendiquer, puis se faire remettre en place ou rappeler qu'on avait des droits. Donc, je pense que le mouvement Occupy a ramené ça aussi dans l'idée, le fait de l'espace public, réoccuper l'espace public, les différences entre les classes sociales, en fait. Donc, oui, je pense que, en quelque sorte, ça l'a peut-être aidé un peu à la propulsion du mouvement étudiant, mais je pense pas que ça... C'est le mouvement Occupons qui est à la base des manifestations.
Sans être à la base. Mais j'ai une hypothèse quand même sur le lien qu'il peut y avoir entre les deux. J'ai l'impression que Occupons, en s'inscrivant dans la durée, en faisant quelque chose qui semblait ne jamais finir,
ouais,
a peut-être pu rendre possible dans la tête l'idée que la grève étudiante s'étire aussi longtemps. Je me demande si la grève étudiante durerait les 78 jours où on est rendu, je ne sais plus combien, s'il n'y avait pas eu le mouvement qui avait dit ben oui, regardez, vous pouvez manifester pendant vraiment longtemps.
Plus que juste une journée. C'est vrai, effectivement. Je me demande si aussi les médias sociaux là-dedans n'ont pas un impact. C'est-à-dire que le fait de voir que chaque jour des gens vont manifester, qu'on reçoit une invitation à les manifester, qu'on voit l'opinion de tout le monde sur un événement et que tout le monde veut y aller, la même chose avec Occupons, là, on voyait que partout dans le monde, ça occupait, puis que le mouvement, ça durait pas juste une journée ou pendant deux minutes au bulletin de nouvelles, c'était constamment. Je pense que ça a vraiment eu un genre de ça a vraiment un genre d'impact pour se dire l'occupation puis la manifestation, le changement en fait c'est pas d'un coup, ça fait pas d'un coup, ça prend du temps. Puis pour ça, ben faut occuper puis il faut tu sais rester là longtemps.
Oui, c'est loin d'être ton premier combat là présentement, t'es dans le mouvement étudiant puis tu sors pour le mouvement étudiant, c'est loin d'être ton premier combat puis il y en a pas beaucoup que tu as gagné au complet ou que même que tu as gagné point. Pourquoi tu es encore là?
Pourquoi je suis encore là?
Pourquoi t'es encore là? Pourquoi t'es encore dans la rue?
Ben parce que je pense que l'important, c'est dans la réalité des choses, je pense que l'objectif, c'est de se battre principalement. L'objectif n'est pas nécessairement de gagner, mais de se battre en réalité. Tu sais, c'est sûr que l'objectif ultime, c'est de déposer les armes, mais on s'entend que dans une société, les combats sont perpétuels. Et je suis surtout là pour montrer aux gens qu'on a une nécessité de se réactiver, sinon c'est les autres qui nous activent, c'est les autres qui décident pour nous. Puis ce genre de société-là amène pas nécessairement à être heureux, amène pas au bonheur. Donc, puis quand on y pense, on n'a jamais vraiment tous les combats. Tu sais, la situation dans laquelle on vit, autant au niveau des femmes, des minorités ethniques, la société démocratique qu'on a, c'est des sociétés qui se sont bâties à travers des combats. Puis c'est des combats perpétuels. On n'a pas construit une société en demandant des droits. On a construit une société en se battant pour ces droits-là. Et donc c'est ça, je pense que l'objectif n'est pas de gagner, mais surtout de combattre.
Et deux questions un peu plus légères. Première, pour vrai. La première, à qui la rue?
À nous la rue.
Et
Facile, celle-là.
Et as-tu un slogan de manif préféré?
Préféré? J'en ai trouvé certains drôles, vraiment très drôles. Il y en a un, c'est... OK, c'est, j'utilise des gros mots, OK? Charret, ta gueule, on peut se crosser tout seul. J'ai trouvé ça très drôle, en fait, parce qu'il y a tellement d'images dans ce slogan-là.
22 mars 2012.
Les évaluations de foule, ça vaut ce que ça vaut. Mais on dit que le 22 mars 2012, 200 000 personnes ont marché dans les rues de Montréal contre la hausse des frais de scolarité. J'y étais pour voir, parce qu'on laissait entendre que ce serait énorme. Et ce l'était énorme. C'était tellement impressionnant, en fait, que j'ai senti rapidement le besoin de sortir mes micros et d'enregistrer un peu n'importe quoi, juste pour garder des traces. À ma blonde qui était restée à la maison et qui m'a texté « J'ai l'impression de manquer quelque chose », j'ai simplement répondu dans un texto tout en majuscule « Viens-t'en ». Comme je préparais pas de reportage sur les manifs ce jour-là, j'ai pas fait d'entrevue. Je vais donc utiliser les mots écrits par d'autres dans la revue Fermaille, un expiratoire de création imprimé par des étudiants de l'UQAM. D'abord, un extrait de « Je marche un peu à l'écart de la foule » de Maude Cournoyer. La rue est devenue une scène populaire pendant quelques heures, un lieu où le regard s'ouvre à la sensibilité et à l'esprit. La manif, comme on l'appelle, canif de chair, d'os et de sang qu'on garde sur soi par précaution. Objet qu'on déploie pour percer le quotidien et laisser respirer la vie qui s'y meurt, asphyxiée. Je pense à cet individu bloqué dans sa voiture en plein centre-ville, sur le visage duquel j'ai cru apercevoir une détente, une respiration inespérée. Il est maintenant certain que ses mains canifs, corps prolongé de pancartes, mots à bout portant, ont atteint les regards. J'espère que nous aurons ébranlé quelque chose de plus profond que cette hausse. Pour ma part, j'ai la solitude à vif de ce « nous » qui devient le mien.
Monsieur Charret, vous avez tort lorsque vous dites que le mouvement étudiant va s'écrouler. Durant les prochaines semaines, nous allons être plus nombreux et nombreuses que jamais dans les rues. Nous allons perturber plus que jamais le Québec. Et Monsieur Bachand, Madame Beauchamp, Monsieur Charret, vous n'avez qu'une seule option.
À force de faire comme il faut, de Virginie Blanchette Doucet, aussi tirée de la revue Fermaille. 200 000 étudiants solidaires au lieu d'en colère. Il paraît que ça se mérite des applaudissements du SPVM. Pas d'arrestation, pas de grabuge, pas d'œil crevé. Que du brandissage de pancartes, de la danse, des slogans à casser la voix. Pas de réaction non plus. Vous êtes cute, mais vous n'impressionnez personne, qu'ils disent. Moi, j'étais impressionné. Ma mère aussi l'était. Pour une fois que ça dépassait son inquiétude à force de grandeur, faut dire que je m'étais bien préparé. De la crème solaire Sport 30 FPS. Mais sans blague, que faudra-t-il pour aller les chercher terrés dans leurs barricades et leurs semblants de certitude? Je ne peux plus croire leurs réactions figées devant les caméras, toujours les mêmes réponses. Je ne croirai plus en rien sauf en nous. Les frissons sur les bras me le disent, la pulsation de la foule quand la vague d'un cri roule sur des kilomètres et prend le corps entier. On dit déjà, j'ai été là, comme je me souviens.
Les affiches qu'on a distribuées le 22 mars, ça a été vraiment un de nos bons coups, je pense, parce que en fait, on s'était donné comme défi d'imprimer plus que 2000 affiches en une nuit, parce qu'on est très inspiré par les affiches qui ont été faites en mai 68, qui sont très caractéristiques d'un mouvement de protestation. Donc nous, on voulait imprimer plus d'affiches qu'eux n'avaient fait en une nuit. Donc eux, ils avaient imprimé 2000 affiches, nous on a fait 2004. Et puis c'était de voir les gens se reconnaître dans une des trois affiches. C'était tout le temps un choix clair, parce que les affiches étaient était fait pour trois publics différents. Donc, il y avait une affiche qui était très rassembleuse, qui était l'affiche du combat est à venir. Il y avait l'affiche qui était très critique, qui était l'État sauvage, donc la province du Québec qui était comme une autruche qui se mettait la tête dans le sable. Et puis, il y avait le slogan du printemps érable, donc un message qui était plus global par rapport à qu'est-ce qu'on voulait ou qu'est-ce que les gens voulaient qu'il se passe au Québec. Donc, les gens se reconnaissaient très facilement dans une des trois, puis c'était de voir la relation, justement, comme « vas-y, on te donne tes idées, mais en images », puis les gens qui étaient heureux de ça.
Fait qu'on avait fait 28 avril 2012, au troisième étage du pavillon de design de l'UQAM, dans l'atelier de l'École de la Montagne Rouge.
Même au début de l'entrevue, où tu pourrais dire que la personne qui a interview, c'est un membre de l'École de la Montagne Rouge, plus que Guillaume Lépine. Ça traduirait vraiment mieux ce qu'on est, tu sais.
L'École de la Montagne Rouge est un rassemblement d'étudiants en design graphique de l'UQAM qui ont décidé d'utiliser leur talent pour créer une imagerie moderne et plus efficace pour le mouvement étudiant. Vous avez déjà vu leur travail, c'est certain.
Nécessairement, ils ont vu nos chiennes rouges, ils ont vu nos cubes bloquons la hausse, ils ont vu le gros cube rouge gigantesque de 11 pieds par 11 pieds par 11 pieds. Ils ont certainement vu les pancartes « Le combat est à venir avec la vague »,« L'état sauvage avec l'autruche ». Ils ont sûrement vu la pancarte ou les chandails « Printemps érable ». C'est tous des produits, dans le fond, de la Montagne Rouge. Ça, c'est vraiment un volet qu'on a, c'est les actions visuelles dans les manifestations ou dans la ville. Et puis, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet d'École de la Montagne Rouge, qu'il ne faut pas oublier, c'est le volet « Toute l'exploration, toute l'expérimentation derrière cette recherche de communication par les images ». Et puis, il y a aussi le volet, dans le fond, aider les autres associations étudiantes. Donc, ce que vous avez vu aussi peut-être dans les manifestations, c'est des bannières qui avaient été faites par nous, mais qui ne sont pas signées nécessairement à l'École de la Montagne Rouge. Parce que le but, c'est pas que l'École de la Montagne Rouge soit connue ou soit reconnue, mais c'est bien que la hausse des frais de scolarité ne passe pas. Mais en fait, c'est un langage en soi, le langage des arts visuels. Alors, nous, on utilise ce langage-là, au même titre que quelqu'un pourrait utiliser la musique. La musique dans les manifestations, nous, c'est ce qui est les images dans les manifs. T'as pas besoin d'un carnet d'explication pour une image. C'est comme, faut que ça soit clair. Puis ça, nous, on tient à ce que ça soit présent dans les manifs. Puis c'était une des raisons de la fondation de l'école de la Montagne Rouge. En fait, c'était, on déplorait un peu l'esthétique qu'il y avait présentement dans les manifestations avant le début de la grève. Et puis, on voulait s'assurer que, bon, les étudiants étaient bien représentés au niveau de la communication visuelle, tant dans les manifs que dans les actions des étudiants. Donc ça donne une crédibilité au mouvement ou un sérieux. Le fait que nous, en design graphique, ce qu'on utilise, c'est la communication visuelle, puis qu'on utilise cette force-là pour faire passer des idées, dans le fond, dans la grève.
Est-ce que les créateurs ont un devoir d'être là?
Ben oui, parce qu'ils ont... J'utilise ce langage-là tout le temps, c'est un langage visuel, surtout pour les gens design graphique, qui ont ce pouvoir-là. Moi, je pense que, comme créateur, en tout cas comme designer graphique, on a le pouvoir de faire des images qui communiquent des idées, puis je pense que c'est dommage de pas profiter de cette occasion-là, qui est comme justement un moment de se rassembler puis de travailler avec du monde de plein de domaines différents. Puis il y a beaucoup d'images qui ont été faites dans les révolutions, dans les mouvements de protestation, comme je disais tantôt, les affiches de mai 68, mais c'est comme dans n'importe quoi, la lutte pour le racisme, des trucs comme ça. Il y a des visuels qui ont passé à l'histoire, puis qui ont marqué, parce que c'est des moments où que les créateurs ont des choses à dire, nécessairement si la cause te touche. Puis ça, je pense qu'il faut que tu sautes sur cette occasion-là, parce que justement, tu as des choses à dire, tu as des choses à communiquer, tu as des choses à... Fait qu'il faut que tu en profites.
Qu'est-ce que vos images disent sur les étudiants, à la fois ceux qui les font, puis ceux qui les portent? Ça peut être un ton, ça peut être une grande tendance, ça peut être une façon de considérer la lutte étudiante.
Elle est belle. La lutte étudiante, elle est belle, puis je pense que c'est ça que nos images disent, puis c'est pour ça qu'on voulait que ça soit beau, puis qu'on voulait faire des trucs qui communiquaient bien, puis qui étaient visuellement attrayants. Parce que je pense que c'est une cause qui est noble, puis au bout de la ligne, les étudiants, ils méritent pas mieux que ça, parce que c'est pas fait.
14 avril 2012, dans les rues de Montréal.
1, 2, 3. avez-vous un nom de fanfare?
En fait, on est l'ensemble d'insurrection chaotique. On est une fanfare des militantes de Montréal, mais en ce moment, on est en congrès. On a invité des on a fait comme un congrès entre qui discute la résistance et de l'art ensemble. Fait qu'on a invité des fanfares militantes de partout aux États-Unis. Fait qu'en ce moment, ici, il y a Rude Mechanical Orchestra de Brooklyn qui sont en vert et noir. Il y a pas mal tout l'ensemble d'insurrection chaotique de Montréal. On est une vingtaine de joueurs. Il y a des gens de Second Line, Aid Society, and Pleasure Society, Leftist Marching Band, fait que New Hampshire, Vermont, New York, tous les gens qui sont dans les fanfares militantes sont venus nous voir.
Ça, c'est un melting pot.
C'est un melting pot de tout le monde, ouais.
Mars 2012, manifestation contre la brutalité policière.
Cette manifestation est devenue notoirement illégale. Donnons l'ordre de dispersion de rentrer chez vous.
Avril 2012, à l'Université du Québec en Outaouais.
C'est pas le Légion de chance qui va nous faire plier. Grève générale d'immunité. C'est pas le Légion de chance.
Je veux pas qu'on fasse mal à mes étudiants. Je suis professeur en sciences de l'éducation et le jeune homme qui tenait des livres, c'est un de mes étudiants et les livres qu'il tient sont des livres sur l'éducation et la démocratie. Et je suis outrée par ce que je vois aujourd'hui. L'anti-émeute avance sur nos étudiants, c'est d'une violence inouïe. Je ne comprends pas comment on a pu permettre que ça se rende à ceci à l'Université du Québec en Outaouais. J'ai jamais vu une chose pareille.
Entrevue tirée d'un reportage de Pierre-Jean Séguin.
Avril 2012, vers 8h du matin, au centre-ville de Montréal.
La manif avait comme titre « Shutdown Centre-ville ». Mais au moment où je suis arrivé, c'était plutôt « Shutdown le coin de rue où on est ». Parce que quelques secondes après le passage du groupe, le trafic des automobiles reprenait son cours normal comme s'il n'était rien arrivé. C'était une drôle de scène. La centaine de manifestants couraient, se divisaient en 2-3 groupes, entraient dans des ruelles poursuivies par la police et se retrouvaient à un autre coin de rue pour se faire charger par l'anti-émeute. Ça a duré quelques minutes jusqu'à ce qu'une manifestante crie dispersion, il y a des agents provocateurs, on se disperse. Et là, pouf, tout le monde est disparu dans la foule de la ville et on croisait un peu partout des jeunes qui rangeaient leur linge de manif dans leur sac à dos pour remettre leurs vêtements de civil.
On se disperse, c'est terminé! Bonne journée à tous!
Vous étiez à la manif qui vient de se passer, je me trompe pas?
Oui, exact. Et... Perspicace.
Plus que la police, en fait.
Ouais.
Quel sens vous donnez au fait d'être dans la rue de la façon dont vous venez de l'être?
Je pense qu'il y a vraiment plusieurs sens, mais je pense que c'est aussi une sorte de se réapproprier nos propres lieux, se réunir aussi, être ensemble dans un endroit qui est le nôtre pour justement utiliser la manifestation, les actions, tout ça, pour revendiquer ce que nous, en tant que peuple ou citoyens, on désire revendiquer.
Il y a vraiment une efficacité à le faire en petit groupe comme vous l'avez fait?
Ben moi, je pense que oui, je pense que c'est chaque petite action de même, si on n'était pas nécessairement si nombreux, quoi qu'on était relativement nombreux, à mon sens, comparativement à d'autres actions auxquelles j'ai participé. Puis je pense que oui, c'est la pluralité des actions à tous les jours qui finissent jamais, qui finissent par faire quelque chose. Peut-être que l'action isolée en tant que telle a un impact moindrement considérable, mais je pense que c'est la pluralité de toutes les actions depuis les 10 semaines qu'on est en grève, qu'à chaque jour, on lâche pas, on manifeste, on fait des actions directes, on fait des occupations, on fait des blocages. C'est la pluralité de ça qui perturbe, je pense.
Est-ce que vous pensez que la grève étudiante fait partie de quelque chose de plus large encore? Ah, il y en a qui parlent le fameux le printemps québécois ou le printemps érable.
Oui, je pense que peut-être pas pour tout le monde. Il y a plusieurs, tu sais, je crois aussi qu'il y a une pluralité d'opinions. On était là à bloquer le même endroit, mais tout le monde pense d'une certaine façon. Mais je pense que oui, pour beaucoup de gens, c'est une lutte encore plus large que seulement la hausse des frais de scolarité ou la gratuité scolaire.
Plus la lutte avance, plus les slogans vont être larges, vont pas seulement viser l'éducation, mais aussi l'espèce de garde de classe qui nous opprime, puis la répression policière aussi, qui est vraiment très forte. Donc, quand on parle de répression policière, ben, on parle de police politique, parce qu'il y a quelqu'un qui la dirige. Eux, c'est les marionnettes qui sont dans la rue, là. C'est la chair à canon, c'est les premiers aux lignes. Ils se trouvent importants, mais faut pas oublier que c'est pas les plus importants qu'on met pour aller se battre.
C'est ça.
Question un peu plus légère, votre cri de manif préféré?
Mon cri de manif, moi, c'est... Moi, c'est un petit slogan. Dans la chambre, il y a des députés qui se branlent toute la journée. La meilleure façon de voter, c'est encore la nôtre, c'est de prendre le pavé et de leur balancer. Gauche, gauche, libertaire, le vent de droite ne passera pas. Syndicalisme de combat.
Mon Dieu, c'est long.
Oui, mais c'est le plus fun à scander, tant qu'à moi.
Le salon du plan Nord que nous allons ouvrir aujourd'hui, qui est déjà très populaire, les gens courent de partout pour entrer.
20 avril 2012, le Palais des congrès.
C'est une occasion notamment pour les chercheurs d'emploi. Alors, à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi dans le Nord, autant que possible.
Un mois plus tôt, à cette île, le premier ministre est venu parler du plan Nord.
Assez, c'est assez, Charest doit démissionner.
Parmi les manifestants, on trouve plusieurs élus.
Québec, droit, idée. C'est vous, solidarité. Arrêtez la destruction.
Les Inuits connaissent ça, la contestation du plan Nord, et prendre la rue aussi. Depuis 2009, le complexe hydroélectrique de la rivière Romaine est en chantier sur la côte Nord sans l'accord de l'ensemble des communautés Inuits. Les lignes électriques doivent passer sur 500 km de terre ancestrale Inuits. Par deux fois, la communauté Inuit de Ouachat-Mac-Mani-Outenam a voté contre le projet. Ce qui semble gêner personne au gouvernement parce que tout continue comme si de rien n'était. En mars dernier, les Inuits ont décidé de prendre la rue et de bloquer l'accès aux camions qui livrent au chantier de la Romaine. Mais après 5 jours de protestations pacifiques, une injonction est venue du tribunal. Les protestataires devaient libérer la route avant 17h, le vendredi 9 mars.
Vous savez, avant l'arrivée des premiers Européens, je dirais, on n'avait pas ce genre de loi-là. Il n'y avait pas de loi. Je sais pas sur quelle loi je peux défendre nos droits, je sais pas.
Le cinéaste Réal Junior Leblanc était là et il a documenté le blocus de la 138 avec sa caméra. L'arrivée de la police, le soir, a été déchirante.
Cette manifestation est devenue illégale. Nous vous donnons l'ordre de vous sortir, vous arrêtez chez vous. Si vous nous voyez,
la rangée de policiers, casqués, cachés derrière leurs boucliers, avancent vers des femmes qui chantent « Chers enfants, on vous aime. Demain, nous serons encore là. »
J'entends encore sans cesse les cris de rage et les pleurs de désespoir des miens. J'ai vu des femmes défendre la mère terre avec des chants de paix. J'ai vu mon peuple se faire refouler sur ses propres terres par des étrangers casqués. J'ai vu des aînés verser des larmes de fierté oubliées. Comment défendre notre héritage et l'avenir de nos enfants contre ces géants de l'argent? Je pleure pour toutes les rivières qu'ils détourneront, pour toutes les forêts qu'ils saccageront, pour toutes les terres qu'ils inonderont, pour toutes ces montagnes qui disparaîtront. Je leur dirai du plus profond de mon âme toujours non.
Le film de Réal Junior Leblanc est disponible sur YouTube sous le titre « Blocus 138 ».
Le 22 avril dernier, 300 000 personnes se sont rassemblées à Montréal pour le Jour de la Terre. La marche a juste duré quelques minutes, le temps de se rendre sur le Mont-Royal, où la foule a pris la forme d'une main géante. Disons-le, l'événement manquait un peu de cette magie-là qui a rendu la manif du 22 mars extraordinaire. On était beaucoup, oui, mais on ne faisait pas grand-chose. C'est pas pour rien qu'une manifestation, ça se marche d'un point à l'autre. C'est comme une danse. C'est comme danser avec 200 000 personnes. Et un party où on danse, c'est toujours mémorable. Heureusement, pour amener la magie au jour de la Terre, il y avait les poètes. Vous écoutez dans le champ lexical, et cette semaine, on parle du mot « rue ». D'abord, un texte d'Hugo Latulippe, lu par Geneviève Rochette.
Et comme par magie, nous avons défilé sur ce coin de pays créé, serrés les uns sur les autres comme un très grand progrès. Nos meilleurs philosophes, postés comme les Grecs au milieu du torrent, ont dit « À partir d'aujourd'hui, nous mènerons nos propres insurrections. À partir d'aujourd'hui, sur tous les lacs gelés du nord et de l'intérieur, nous marcherons à l'envers de l'époque au complet s'il le faut. » Nos petites écoles lumineuses cracheront des bataillons de petits mondes pas un cadeau. Formés pour nous fendre, nous fracturer, formés pour nous contester l'ordre, pour nous dire que le roi est nu. Vous verrez, nos filles et nos fils émergeront debout comme une forme de l'art. Ils seront comme un vent chaud. Ils viendront de partout nous sortir le X des petites cases, nous remettre le feu en arrière des yeux. Nous serons zapatistes de nouveau. Nous nous interposerons par le rêve. Nous serons la marée et le bouclier.
Marchez, je vous entends marcher. J'ai vu M. Bach planter son arbre, son chêne. M. Bach, vous n'avez pas perdu votre temps ni votre peine. Je vous entends marcher, je vous entends rêver. Douce comme une rivière, je vous entends claquer comme voile du large. Je vous entends gronder comme un chute en montagne, je vous entends rouler comme baril de poudre. Je vous entends monter comme un grain de 4 heures, je vous entends cogner comme un mer en falaise. Je vous entends passer comme une glace en déborde. Je vous entends demain parler de liberté.
Comme un glace en débat, je vous entends demain parler de liberté.
3 morts, 1000 blessés, gaz de combat. Groupons-nous et demain. Pourquoi? Parce que des étudiants refusent de devenir des cadres complices et bénéficiaires de l'exploitation des travailleurs, parce qu'ils refusent le prétendu dialogue qui ne porte que sur des décisions déjà prises en haut lieu. Quand ce refus passe des paroles aux actes, occupation des salles de cours, projection dans la faculté de films politiques interdits par la censure, boycottage des examens, etc. Quand pour les travailleurs, ce refus n'a qu'une expression, la violence. L'État bourgeois n'a qu'une réponse, la répression. Chantage des bourses, menaces d'expulsion, liste noire, intervention des flics dans les locaux universitaires, arrestations massives, emprisonnement, menaces de licenciement pour les travailleurs. Dénonçons. La réouverture des facs décidée dans le seul but de faire passer les examens. Nous ne voulons pas être les chiens de garde du capital. Le détournement par les appareils bureaucratiques habituels d'un mouvement de contestation globale de la société en un seul mouvement réformiste s'inscrivant dans le cadre de l'immobilisme de l'université bourgeoise. Agissons. Refusons le fonctionnement normal de l'université jusqu'à la libération des étudiants et des travailleurs. Dès aujourd'hui, les étudiants occuperont massivement les locaux universitaires afin d'y imposer le pouvoir de la contestation politique, la levée immédiate des sanctions contre tous ceux qui sont encore menacés sur le plan pénal et administratif. Nous ne céderons pas au chantage. Ne nous laissons pas diviser. Face à l'escalade de la répression, opposons notre fermeté. Organisons-nous pour continuer la lutte dans nos quartiers et sur nos lieux de travail. Nous manifesterons vendredi 10 mai à 18h30. Groupons-nous et demain. Avant d'inscrire cet événement à vos agendas, sachez que ce vendredi 10 mai 18h30, le rendez-vous devait être pris place d'Enfer Rochereau à Paris en mai 68.
Laura Neal et je suis directrice générale à CUTV, Community University Television Concordia. Alors CUTV est une station campus communautaire, on est un média à part entière et on est aussi un centre de formation et d'opportunités pour les communautés qui n'ont pas d'accès aux technologies de production vidéo.
Et donc dans le cadre de la grève étudiante qui se déroule en mars, vous faites une couverture qui se fait pas vraiment ailleurs, c'est-à-dire que vous vous lancez dans le tas, vous allez dans la rue et vous faites des fois des 3 ou 4 heures d'affilée de direct. Mm-hmm. Avez-vous une idée de combien d'heures depuis le début de la grève vous avez pu diffuser?
C'est au moins proche d'une centaine d'heures, surtout quand on couvre le mouvement étudiant depuis plus que 2 mois, on le couvre depuis 2 ans.
Comment vous décidez que bon, celle-ci va être live, on va là, on envoie quelle personne? Comment vous fonctionnez à ce niveau-là?
Mais en tant qu'organisme communautaire, on a donc à peu près 400 membres qui font partie de toutes nos émissions. Et ces membres décident de façon collective sur les sujets, sur les événements qui semblent les plus appropriés ou qui reflètent vraiment les intérêts des communautés qui sont sous-représentées ou mal représentées dans les médias.
Quand vous sortez dans la rue, quel équipement vous avez? Traînez-vous un camion d'équipement ou on parle d'une... Est-ce que c'est une des petites caméras beaucoup plus petites? Est-ce que... Comment vous fonctionnez?
Ouais, on n'a pas de camion, on n'a pas de studio non plus. CUTV, notre studio, c'est le monde ou la rue. Et on a donc adapté nos équipements pour qu'ils soient le plus mobiles possible. Alors, on a pour l'équipe en direct un sac à dos transmetteur et une caméra avec un monopode. Donc, c'est... quand même beaucoup à porter, c'est quand même plusieurs livres.
Il y en a une dans le coin, j'essaie de m'imaginer la...
Je vais te le montrer. Donc, le sac à dos de transmission, c'est en fait un ordinateur qui est là-dedans. Et l'écran où on peut voir qu'est-ce qui est transmis est ici. Ça se connecte.
Ah, c'est...
Ouais,
c'est mettons comme... un...
un sac de voyage vraiment rempli, là.
Ouais, pas mal. Ça ressemble un peu quand on fait du backpack à le porter, mais quand on monte des collines comme à Westmount, lorsqu'on se rend chez Charest, c'est vrai que c'est quand même...
Le journaliste se met derrière et pousse. Comment ça va avec la police?
La police... Ben moi, je suis extrêmement dégoûtée par les agissements de la police et je veux pas mettre toute le blâme sur eux parce que je sais qu'ils n'agissent pas de façon individuelle, mais je pense que la liberté d'expression et la liberté de presse est menacée en ce moment au Québec et c'est tout à fait déplorable dans un État qui se dit démocratique et de droit.
Est-ce que c'est lui qui s'était fait poivrer?
Oui.
Ah.
Et arrêté.
j'ai vu la photo.
CUTV Montréal, en direct, Sainte-Catherine. Il y a une...
Calme-toi!
Il y a de la brutalité policière...
Calme-toi!
Qui déroule juste devant nous.
Calme-toi!
Media! We're media! Don't! Our
you fucking cunt!
Pepper spray.
Motherfucker!
Are you okay?
Yeah, give me the microphone. So the police purposely pepper spraying people in their eyes, journalists who are trying to film them, break the fucking law! Hide me water!
D'ailleurs, vos images ont été reprises par CNN, ouais. Et entre autres, et par plusieurs autres ici, des fois payées, des fois moins payées. Ouais. Étiez-vous surprise de que ça se rende jusqu'à CNN?
Non, parce que en fait, même avant l'année dernière, lorsqu'on a couvert, par exemple, les manifestations de la des communautés arabes à Montréal, on était un des premiers médias et Al Jazeera a diffusé nos images à l'international parce qu'ils n'ont pas de bureau à Montréal. Alors, c'est le genre de choses qu'on se rend compte que lorsqu'on est un des seuls médias qui couvre des actions qui se déroulent sur une base locale, mais qui ont un impact international, les autres médias convergent. Et c'est, en fait, les discussions que j'ai eues, par exemple, avec Radio-Canada cette semaine, RDI, c'est que pour eux, c'est avantageux, finalement, d'avoir la couverture que nous, on a, parce que c'est pas une couverture qu'ils sont capables ou qu'ils ont la volonté d'aller chercher eux-mêmes.
Sentez-vous que vous avez un effet sur la façon dont les choses se déroulent?
Je pense que oui, parce qu'on apporte plus de transparence, on informe davantage la population sur ce qui se passe. C'est des commentaires qui nous sont revenus comme quoi la couverture qu'on est en train de faire, le fait qu'elle n'est pas coupée, montée, on revient en studio, etc., ça fait en sorte que les gens se sentent comme s'ils étaient là et ils ont un peu le pouls de beaucoup de manifestants, de le pouls de la rue. Et donc, je pense qu'une société qui est plus informée, c'est une société qui est plus politisée. On le voit, cet impact-là, parce que de plus en plus de groupes communautaires sont en train de se joindre au mouvement étudiant, de plus en plus de syndicats également. Et ces groupes sont également en train de s'adresser à nous, de nous demander de couvrir certaines des manifestations, des actions qu'ils organisent. Et ils nous supportent également. Ils sont, comme je l'ai dit tantôt, de plus en plus généreux. Je pense que les scènes qui ont été qui ont atteint un intérêt viral là, sur Internet, c'était celle où, par exemple, notre journaliste a été arrêté, ou bien quand nos journalistes ont été attaqués, poivrés, etc. Mais pour moi, il y a les moments les plus importants à retenir, je pense, de ces manifestations, c'est les sourires et les belles choses que les gens disent, les discours passionnés de personnes de toute la société. Finalement, on a des professeurs, des artistes, des représentants syndicaux, des étudiants, des anciens étudiants, des futurs étudiants. Il y a un moment en particulier l'année de, la semaine dernière, c'était presque comme l'année dernière avec tout ce qui s'est passé, où j'ai vu un enfant sourire et essayer d'un peu jouer avec un policier anti-émeute qui était en fait prêt à commencer à violenter des manifestants proches du palais de palais des congrès. Et l'enfant, en fait, était, je pense, impressionné par le bouclier et tout l'habillage des policiers anti-émeutes. Et c'est réellement, c'est des images, comme parce qu'on est un média visuel, qui sont, qui choquent et qui, à la fois, sont vraiment du jamais vu. Je pense que c'est vraiment beau que les gens continuent à avoir espoir, autant dans leur propre société et puis dans les institutions publiques qui devraient être là pour nous supporter.
Dans leur immense majorité, ces étudiants en délire, voilà deux semaines, courbaient l'échine et ruminaient leur ennui, loin de la politique, loin du syndicalisme, insatisfaits d'eux-mêmes et du reste, mais sans espoir de revanche. Ils s'émerveillent de communier soudain dans une protestation qu'ils ignoraient partager. Ils s'étonnent de se retrouver tous, ou presque, alors que le ciment de ces retrouvailles est élastique, que les mythes traditionnels sont troués. Ils devinent que le flou de l'ensemble, le côtoiement du refus instinctif et de l'avant-garde sentencieuse sont probablement une condition majeure de l'expérience. S'ils savaient où ils vont, ils seraient moins nombreux. Des non-étudiants, des étrangers se glissent parmi les gens du lieu. Ils ne sont pas de la paroisse, mais ils possèdent le mot de passe. Ils sont jeunes, jeunes employés que le couperet de la sélection a écarté de l'enseignement, jeunes ouvriers qui se risquent dans le temple de la science, comme en visitant douce un domaine privé, le pied incertain, par crainte de salir les tapis. Ils ont vite compris qu'ils n'ont rien à craindre, qu'ils sont même, eux, les exclus, traités en hôtes d'honneur par les petits bourgeois culpabilisés. Arrivent encore des parents curieux, des profs solidaires, des politiques intrigués, des ivrognes bien cuits, des paranoïaques saignants, des autodidactes fascinés, des curés à l'écoute, des photographes fébriles, des romanciers désœuvrés, des comédiens amateurs. Arrivent, un à un, tous les anciens. Dès la réouverture de la fac de la Sorbonne ce matin, des pinceaux anonymes sont entrés en action. « Interdit d'interdire », annonce le premier mur consulté. « Nous sommes des rats et nous mordons. Celui qui peut attribuer un chiffre à un texte est un con. » Quand le dernier des sociologues aura été étranglé avec les tripes du dernier bureaucrate, aurons-nous encore des problèmes? Le grand amphithéâtre, par l'ampleur de la surface disponible, autorise une débauche de surcharge, de ratures, de citations. Au fur et à mesure que la nuit s'avance, les graffitis s'allongent, se chevauchent, se querellent. C'est un extrait de Génération, les années de rêve, par Hervé Hamon et Patrick Rothman, publié chez Point, collection actuelle.
Depuis toujours, semble-t-il, des chants ont contribué à galvaniser l'ardeur des manifestants, combattants, résistants et insurgés du monde entier. Si certaines ont été écrites par les acteurs des combats pour parler de leur lutte, beaucoup sont issus des répertoires traditionnels ou populaires. En fait, il y a un va-et-vient constant entre les chansons engagées reprises dans la rue et les chants des manifestants repris par des artistes populaires. Pour des raisons historiques et culturelles, le répertoire français nous est plutôt familier. De la Révolution française, nous retenons la Marseillaise, bien sûr, mais aussi « Assaïra » et la Carmagnole. Quant à la Commune de Paris, elle est associée à tout jamais à l'hymne ouvrier l'international, mais aussi à la plus romantique, « Le temps des cerises ».
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guérosignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur.
quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles.
Un bel exemple d'une chanson de résistance devenue chanson populaire est Bella Ciao, reprise récemment par Thomas Fersen, Marco Cagliari, Manu Chao et compagnie. Chanson traditionnelle des rizières italiennes, elle devint le chant des résistants antifascistes durant la Seconde Guerre mondiale. Or, un journaliste italien a découvert par hasard il y a quelques années que la mélodie proviendrait d'une vieille chanson du folklore yiddish intitulée « Kolienne » et qui fut entre autres enregistrée par des orchestres klezmer américains au début du 20e siècle. Je vous laisse comparer.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Depuis les années 60, ce sont le plus souvent les chansons des artistes engagés qui sont reprises dans les diverses manifestations. On n'a qu'à penser aux chansons de Bob Dylan pour les États-Unis, à celles de Berrurier Noir du côté de la France, et bien sûr chez nous aux Cowboys Fringants et à Loco Locas. Mais les chants de lutte traditionnels ne sont pas en reste. Ainsi, il y a quelques années, des membres du groupe Zebda ont formé le collectif Les Motivés, qui a repris sur disque et sur scène de grands classiques des chansons de lutte, dont cette version du fameux chant des partisans.
Motivé, motivé, on va rester motivé.
Dans Champ Lexical cette semaine. L'émission est une réalisation de Mathieu Charlebois et Joannie Larue. Sont descendus avec nous dans la rue cette semaine Chloé Barry à la lecture de textes historiques et actuels, Christiane Campagna aux chansons thématiques et Dominique Charon à la recherche et à la narration. Merci à Jean-Hugues Roy, Vanessa Racine et Éliott Champagne pour leur son de manif. Merci à la revue Fermaille pour leurs textes. On vous rappelle que CUTV, qui diffuse des documents vidéo importants sur les manifs étudiantes, et ils ont justement tellement bien couvert ça longtemps qu'ils ont dépassé le nombre de minutes pour leur abonnement, et en gros, ça veut dire que ça leur coûte des sous diffuser des vidéos. Mais vous pouvez aller les supporter avec un don à cutvmontréal.ca. Revenez-nous la semaine prochaine pour le mot « luxe ».
I see you live on Love Street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what